téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de comment garantir la réussite d'une entreprise naissante. À cet effet, nous serons avec notre invitée du jour, Madame Ndiaye Ramata. Bonjour Madame Ndiaye.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien, merci.
Ça, ok, c'est avec un plaisir qu'on vous reçoit sur le plateau de Mag Emploi.
Plaisir partagé.
Ok, donc Madame Ramata Ndiaye est une professionnelle du développement et de l'innovation sociale. Elle est spécialisée dans la gestion de programmes, les partenariats stratégiques et l'accompagnement d'acteurs de changement. Elle est aussi membre du conseil d'administration de Impact Hub Bamako, secrétaire générale d'Immersia Association et fondatrice de Ndiarama Media Consulting. Ramata possède plus de 10 ans d'expérience dans la coordination de projets de projets multi-acteurs à l'intersection de l'entrepreneuriat, de l'inclusion économique et de la transformation durable en Afrique de l'Ouest. Forte de son expérience panafricaine, elle mobilise aujourd'hui son expertise pour renforcer la résilience des territoires à travers des solutions inclusives, durables et innovantes. Ramata est alumna de prestigieux programmes de leadership comme le Shining One Young World Leaders Obama et Women in Africa. C'est bien ça.
C'est bien cela.
D'accord. Donc, Madame Ndiaye, comme je l'annonçais tout de suite, avec vous, on va parler de comment garantir la réussite d'une entreprise naissante.
Oui.
Donc, la première question que je pourrais vous poser, selon vous, quelles sont les premières étapes indispensables pour lancer une entreprise?
Merci pour cette question qui est vraiment primordiale, que chaque entrepreneur ou aspirant entrepreneur se pose, mais malheureusement, souvent, on n'a pas les réponses qu'il faut à cela. Je pense que la première étape pour garantir une entreprise naissante, c'est d'abord d'avoir ce qu'on appelle le product market fit. Donc cet alignement-là entre votre produit ou service et le marché. Okay. Généralement, ce n'est pas toujours le cas et c'est là où l'étude de marché prend tout son sens. Donc il est important pour vous de vous assurer que votre produit est adéquat au marché malien.
D'accord.
Qu'il répond à une problématique réelle des communautés et surtout que c'est fondé sur un modèle économique.
D'accord.
Souvent, on voit pour un grand frère ou un tonton qui est dans une activité sans savoir, on se lance dedans, sans étude de marché préalable. Donc, il est vraiment important de faire cette étude de marché-là, de vous assurer de connaître réellement les besoins de votre cible et d'adapter votre produit à cela en vous assurant de la rentabilité de ce modèle.
Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on définit une vision et une mission claire qui nous guideront dans notre entreprise?
Effectivement, sur le long terme, beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans une vision fondée. On dit souvent que la vision est la boussole de votre navire qui est l'entreprise. Donc, il est important pour vous de vous aligner sur un secteur d'activité en ayant connaissance de la chaîne de valeur.
Okay.
Donc, par exemple, la vision se définit, au lieu de se dire que je vais entreprendre ma petite entreprise dans le maraîchage, c'est de voir grand, de voir la chaîne de valeur et de se projeter réellement en s'assurant que notre entreprise tienne sur la durée.
Okay.
On a besoin de définir les valeurs de notre entreprise. On a besoin de définir des objectifs clairs et mesurables parce que ce n'est qu'avec ça que l'équipe avec laquelle nous collaborons va nous suivre.
Okay.
Il est important que cette vision soit claire pour l'entrepreneur lui-même et qu'il soit apte à la verbaliser, la formaliser pour que ce soit tangible pour l'équipe également.
Ok, d'accord.
Oui.
Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez mentionné l'étude de marché. Selon vous, quelle place occupe l'étude de marché dans la phase même de création d'une entreprise?
L'étude de marché est primordiale. On le voit dans la rédaction de business plan. L'étude de marché, c'est vraiment le cœur de pourquoi vous faites ce que vous faites.
Okay.
Donc, l'étude de marché, souvent, c'est quelque chose qu'on prend à la légère. Mais je pense que les entrepreneurs gagneraient à se former eux-mêmes déjà ou avoir recours à des professionnels qui peuvent les accompagner pour faire cette étude de marché-là. Ça passe à travers des questionnaires, des statistiques sur le marché, une connaissance accrue des tendances sur le marché, savoir quel secteur est porteur et quel secteur ne l'est pas, quel secteur est à risque et quel secteur ne l'est pas, avant de se lancer. Et cela nous permet de faire également une étude concurrentielle, voir ceux qui sont déjà dans cette activité, quelles sont les difficultés, les challenges que ceux-ci rencontrent et comment vous, à votre tour, vous allez faire pour braver ces difficultés-là. Donc, l'étude de marché est vraiment une étape, je dirais, clé dans la réalisation d'une entreprise.
Ok, d'accord. Pour une entreprise qui souhaiterait se lancer, selon vous, quelles sont les meilleures options de financement qui s'offrent à elle?
Très bonne question. On dit que le financement, c'est le nerf de la guerre.
C'est ça.
Surtout dans nos pays, c'est vraiment problématique pour beaucoup d'entrepreneurs d'avoir accès au financement parce que souvent, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas l'information et ils n'ont pas les garanties qu'il faut pour sécuriser ce financement-là. Aujourd'hui, de plus en plus, même si le mal est toujours profond, il y a des pistes de solutions qui s'offrent à nos entrepreneurs et de plus en plus de pistes. Avant, le modèle classique, qui est toujours le cas d'ailleurs, c'est d'aller vers un prêt à la banque. Oui. C'est toujours une possibilité, mais il faut savoir que les banques sont aussi garants de l'argent qui sont placés chez eux. Et ils ne peuvent pas s'amuser à donner ça à un entrepreneur qui débute, qui teste le marché. Mmh. C'est vraiment compliqué. Oui. Donc, il faut aussi comprendre leurs difficultés. En plus, pour les entreprises qui sont ce qu'on appelle early stage, qui débute réellement, il est important de privilégier l'apport personnel. C'est important que vous-même, vous croyez en ce que vous faites et cela se démontre aussi à travers le capital que vous-même vous injectez dans cette entreprise-là. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le love money. C'est l'argent que des gens autour de nous peuvent nous donner. Souvent sans contrepartie, parce qu'ils croient en nous, parce qu'ils voient un peu notre potentiel et qu'ils croient au projet. Donc ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis qui vont nous soutenir aux premières heures de notre péripétie entrepreneuriale. En plus de ça, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif, qui est souvent utilisé déjà aussi pour tester le marché, parce que plus de personnes vont investir dans votre entreprise, ça veut dire que ces personnes-là croient en votre projet. Donc, mais je prends cela avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a aussi pas mal d'arnaques qui se font à travers le crowdfunding, mais de plus en plus de plateformes agréées proposent ce service-là aux entrepreneurs pour faire valoir leur idée d'entreprise ou leur jeune entreprise. Les gens en face qui croient au projet financent souvent à travers un compte bancaire ou même Orange Money. Et souvent en échange de contrepartie. Ça peut être des produits que vous allez recevoir. Souvent, ça peut être des parts dans l'entreprise. Et souvent, ça peut être aussi vraiment pro bono pour soutenir des jeunes entrepreneurs. Et enfin, il y a aussi les concours, les programmes qui sont aussi très importants aux premières heures du parcours entrepreneurial. Il y a pas mal de programmes de concours aujourd'hui au Mali comme Go Green qui est un programme qui soutient les entrepreneurs, qui crée des emplois verts. Il y a le programme FACEJ, le fonds d'appui à la création d'emplois jeunes, donc qui donne aussi accès à du financement. Il y a des concours de pitch comme les Startup Weekend, comme Seed Stars ou pas mal d'autres concours, ou même la fondation Tony Elimelu à travers le programme TEF qui octroie des primes suite à des concours dans le cadre de ce programme-là. Donc il faut être à l'affût des informations pour pouvoir postuler à temps, préparer un bon pitch deck et défendre son projet. Donc voilà un peu quelques sources de financement.
D'accord, c'est bien noté. Comment est-ce qu'on choisit la forme juridique de son entreprise?
C'est une question très pertinente. Il y a pas mal de formes qui s'offrent aux entrepreneurs. Et l'API Mali fait un bon travail dans ce sens-là. Parce qu'à travers leur guichet unique, ils donnent les informations nécessaires aux entrepreneurs pour savoir quel statut correspond à leur secteur d'activité ou même leur type de business. Nous avons par exemple la société individuelle qui est la plus rapide, qui permet aussi de sécuriser votre entreprise en ayant accès à votre NINA, à votre RCCM. Et il faut comprendre que si vous formalisez votre entreprise, ça vous garantit l'accès à des partenariats et des sources de financement plus sérieux. Donc ça, vraiment, c'est très, très important à le savoir. Ensuite, il y a la SARL, la société à responsabilité limitée. Nous avons aussi la SAS. Donc, c'est à peu près les différentes formes qui sont là. Mais il y a aussi des associations à but non lucratif. Donc, dépendamment de nos ambitions, dépendamment de notre secteur d'activité et du type de service ou produit qu'on met sur le marché, donc chaque forme juridique sera convenable selon ces critères-là.
Ok, d'accord. Quels critères faut-il prendre en compte pour bien fixer sa stratégie commerciale?
Il y a pas mal de critères à prendre en compte. Je recommande de faire une analyse SWOT de son environnement. L'analyse SWOT, c'est un outil qui nous permet de faire le tour des opportunités, des menaces, des forces et des faiblesses de notre entreprise. En tant qu'entreprise, nous avons des forces, ça peut être des avantages concurrentiels que nous avons, ça peut être notre ressource humaine, ça peut être notre portfolio, notre réseau, les fonds, le capital que nous avons, etc. Nous pouvons aussi avoir des faiblesses, ça peut être les manques, les manquements que nous avons au sein de nos équipes, les avantages que la concurrence a sur nous, etc. Mais au-delà de ça, il y a l'environnement macro dans lequel nous évoluons. Donc là, il y a des opportunités que cet environnement macro peut donner. Souvent, les problèmes pour un entrepreneur se déclinent en opportunités. Je prends un exemple concret. La crise énergétique que traverse le pays a été source d'inspiration et de création de beaucoup d'entreprises dans le secteur énergétique, dans l'énergie solaire, par exemple. Au-delà de ça, il y a aussi les menaces. Donc ça va couvrir un peu les menaces, que ce soit d'ordre économique, social, sécuritaire, etc. Donc il est important pour une entreprise de faire ce tour-là pour pouvoir définir sa stratégie commerciale, parce que c'est ça qui va définir le prix que nous allons mettre en place. Parce qu'à travers le SWOT, on va voir comment les charges, les ressources dont nous devons utiliser pour les entreprises vont nous coûter. Et à la suite de ça, on peut fixer les prix, par exemple. Okay. On peut, à travers le SWOT, avoir une idée claire de notre cible. Donc, par rapport à la cible, le persona client que nous avons, nous allons définir la stratégie commerciale et marketing pour les atteindre.
Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on trouve et on fidélise ses premiers clients?
C'est très important de fidéliser ses clients. On dit que un client satisfait est la meilleure des publicités. Et d'ailleurs, toutes les études montrent qu'on met plus de ressources et d'énergie à acquérir un nouveau client que à fidéliser le client. Donc, les entreprises ont tout intérêt à fidéliser les clients qu'ils ont déjà dans leur base de données. Et ça, on le fait premièrement à travers l'expérience client. C'est très important. Surtout dans nos pays, c'est quelque chose qui est souvent négligé. Mais l'expérience client est très importante. Mettre le client à l'aise, lui apporter le service de façon adéquate. Et ça passe par beaucoup de moyens. Ça peut être des livraisons. Ça peut être même si vous avez des boutiques physiques, comment vous titillez les sens de vos clients, la propreté, la lumière, les visuels que vous utilisez. Tout ça joue à d'abord nous démarquer de la concurrence, de telle sorte que le client puisse facilement nous identifier parmi plusieurs entreprises qui font la même chose que nous, mais aussi surtout à ce que le client revienne. Parce que si on va quelque part une fois et que l'expérience client est concluante, qu'on a même accès à des services après-vente, après l'achat, qu'on nous fasse un petit questionnaire de satisfaction, etc. Moi, on se sent valorisé et on a envie d'aller là où nous sommes valorisés. Donc moi, je dirais que c'est vraiment l'expérience client qui contribue à fidéliser nos clients.
Ok. Quels sont les outils ou les méthodes de gestion que vous recommandez pour nos petites structures?
Alors, je pense que d'abord, un business plan est vraiment important. Le business plan permet à l'entrepreneur d'avoir une vision claire, notamment à travers les projections financières qui vont beaucoup l'aider à savoir structurer l'entreprise et aller au bout des objectifs. Donc le business plan est important. Maintenant, dans la gestion quotidienne aussi, il y a pas mal d'outils qui peuvent aider, dépendamment des départements. Dans les opérations, les finances, par exemple, il est important pour l'entrepreneur, surtout aujourd'hui avec les outils digitaux que nous avons, Donc, tirer le maximum possible pour avoir un suivi régulier de vos chiffres. Ça peut être des tableaux Excel comptables basiques, mais ça peut aussi être des outils beaucoup plus sophistiqués, souvent payants, comme Odoo, comme Sage, qui peut vous aider à assurer votre comptabilité et votre finance. Dans la gestion RH, il y a des outils de suivi des équipes. Par exemple, il y a pas mal d'outils digitaux, encore une fois, comme Monday, Slack, qui permettent de suivre, même à distance. Aujourd'hui, c'est vraiment important d'en tenir compte des différentes tâches qui sont assignées à chaque membre de l'équipe. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que l'équipe arrive à suivre? Et vous, en tant qu'entrepreneur, il est important que vous ayez cette vision-là sur les différentes tâches que l'équipe fait. Pas pour faire la police, mais pour pouvoir mieux les aider, les outiller, à ce qu'eux-mêmes puissent atteindre leur objectif et que l'entreprise puisse, par ricochet aussi, atteindre son objectif. Et enfin, dans la communication, je pense qu'il est important de tirer parti des réseaux sociaux, par exemple, pour se faire voir un site web à jour. C'est toujours un stamp pour votre professionnalisme et ça rassure les différents partenaires. Et il est aussi très, très important d'utiliser des outils de programmation de poste comme Notion, qui peuvent vous aider à avoir une communication alignée et structurée.
Ok, d'accord. Comment éviter les erreurs courantes de gestion dans les premiers mois?
Les erreurs courantes de gestion, déjà, ne pas confondre sa poche et la poche de l'entreprise. Un piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent. Et le secret, c'est surtout de ne pas commencer. Parce que si on pioche une fois, on sera tenté de le faire. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment important que vous fassiez ce distinguo entre votre personne physique et la personne morale qui est votre entreprise. C'est l'erreur courante de gestion. Et aussi, surtout, commencer sans s'organiser. Même si c'est un registre, essayez de tout noter. C'est très important. Les sorties, même si c'est un tableau de suivi de trésorerie, pour traquer un peu les rentrées, les sorties au sein de votre entreprise, c'est toujours bien. Le jour où vous allez être beaucoup plus grand et que vous allez avoir besoin de financement, c'est des choses auxquelles on va toujours vous ramener. Donc, c'est important, dès le départ, de se formaliser, de faire les choses bien. Je pense que après quelques années, vous serez content d'avoir commencé plus tôt.
Ok. Comment est-ce qu'on gère les imprévus et les difficultés qui s'offrent à nous quand on est nouveau?
Les difficultés, il y en aura toujours. De toute façon, il y en aura, les imprévus. Ça n'engage que moi, mais à mon avis, la meilleure façon de les anticiper, c'est de s'organiser. Réellement de s'organiser, d'avoir un plan clair, encore une fois, dans un objectif global, avec des tâches à accomplir pour atteindre cet objectif qui est quantifié et qui est déterminé dans un délai donné. Avoir des tâches, des sous-tâches, des personnes à qui ces tâches sont assignées, encore une fois, avec une notion de délai qui est assignée à cela, et faire un suivi constant, rapproché, et essayer toujours de faire un tableau des risques et des possibilités de mitigation de ces risques-là. Je pense que ça peut toujours aider à anticiper sur les risques, mais les risques, encore une fois, il y en aura toujours.
Ok. Quelles sont, selon vous, les clés pour passer d'une petite activité à une entreprise pérenne et en croissance?
Passer d'une petite activité à une entreprise pérenne, il y a d'abord la vision, la structuration. Une entreprise, c'est des systèmes, c'est des opérations. Même si on est passionné, par exemple, par la pâtisserie et qu'on veut mettre en place sa boulangerie pour vendre des cupcakes ou des croissants, etc., on a beau être la meilleure cuisinière, on a beau faire les meilleurs cupcakes, si l'entreprise ne suit pas des opérations, des systèmes, elle va échouer. Donc, il est vraiment important, si vous avez cette vision à long terme de croissance, de bien structurer, mettre des manuels de procédure qui sont suivis à la lettre, mettre des codes et règlements à suivre pour l'équipe et pour vous-même, parce qu'on donne souvent l'exemple nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, c'est très important. Et surtout, encore une fois, un suivi rigoureux et et à adapter pour être flexible aussi, mm-hmm. parce qu'il ne faut pas être trop rigide. Souvent, les systèmes, il faut les améliorer à la lumière des leçons qu'on a apprises.
D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la question de la semaine. Ok, donc Madame Diaïla, il y a une question qui a été posée par Karim Diara, qui est employé dans une structure de la place. Okay. Il pose la question de savoir comment se protéger contre la concurrence déloyale en tant qu'entreprise naissante. Mmh.
C'est un point très pertinent. Merci Monsieur Diara pour cette question, qui, je pense, travaille beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que l'une des premières étapes, déjà, c'est la formalisation, encore une fois. Mmh. Et quand je dis formalisation, au-delà même de la création auprès de l'API Mali, c'est important de se rapprocher de la CEMAPI, qui est la structure qui gère tout ce qui est propriété intellectuelle. Et là, ils pourront vous orienter, dépendamment du secteur d'activité, encore une fois. Pour certains, ça va être des normes ISO à avoir, des labels à avoir pour pouvoir, par exemple, dans les secteurs créatifs, on le voit beaucoup. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est important de le souligner aussi, c'est vraiment facile de dupliquer la propriété intellectuelle d'autrui. Donc, il faut vous mettre à l'abri, et ça, personne ne va le faire pour vous si vous ne prenez pas les démarches nécessaires pour structurer, formaliser tout ça. La deuxième chose, encore une fois, c'est vraiment cette démarcation pertinente entre vous et la concurrence. Parce que même si quelqu'un copie, entre guillemets, ce que vous faites, en réalité, elle ne pourra jamais copier la façon unique avec laquelle vous faites les choses. L'essence même de ce que vous faites, si vous y mettez, c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de l'expérience client. Quelqu'un peut voler votre produit ou votre service, mais la façon dont vous allez maintenir cette expérience client là, vous aurez vous seul le secret de cela, et ça personne ne pourra vous le prendre. Donc assurez-vous de faire un branding, un visuel, une communication très claire et visible qui se démarque des autres, et mettez en place une expérience client qui vous démarque des autres, de telle sorte que même si on vole votre idée, votre petite touche, vos clients vont toujours venir la rechercher.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Dia, d'avoir répondu à cette question. Nous allons passer maintenant à l'instant Mali Bara avec Aissata Keïta. Bonjour Aissata.
Bonjour Sandrine.
Tu vas bien?
Je vais bien, et toi?
Ça va, merci. Aujourd'hui, on parlera de quoi dans l'instant Mali Bara?
Aujourd'hui, comme instant Mali Bara, nous allons vous parler de comment motiver son équipe et la rendre plus performante. La première des astuces consiste à fixer des objectifs clairs et atteignables. Utilisez les modèles SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables dans un temps donné. Décomposez les grands projets en des sous-entités pour maintenir la motivation. Célébrez chaque étape franchie, même les plus minimes. Deuxième astuce pour le thème d'aujourd'hui, reconnaître et valoriser les efforts. Félicitez rapidement et sincèrement un bon travail. Mettez en avant les réussites lors des entretiens ou encore des réunions, et mettez en avant également lors des campagnes de communication interne. Ensuite, offrez aussi des récompenses adaptées. Parfois, un mot de récompense vaut autant qu'une prime. Troisième astuce pour le thème d'aujourd'hui, encourager l'autonomie et la responsabilisation. Mettez ou encore donnez la marge de manœuvre, laissez votre équipe décider du pourquoi ou encore du comment pour atteindre ses objectifs. Évitez le micro-management, montrez que vous leur faites confiance et impliquez-les dans les prises de décisions importantes. Dernière astuce pour le thème d'aujourd'hui, créer un climat positif à l'interne. Favorisez la communication ouverte. Écoutez les idées et les préoccupations des uns et des autres. Encouragez la collaboration plutôt que la compétition interne. Proposez souvent des activités extra-professionnelles telles que des activités de team building, des déjeuners hors du bureau ou encore des activités informelles pour favoriser la cohésion entre les uns et les autres. Ceci met fin à notre rubrique de la semaine. On se dit à mercredi prochain pour un autre thème instant. Maliba.
Merci beaucoup Aissata.
Merci Sandrine.
Madame Dian, on revient vers vous. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour du thème.
Oui. Alors je tiens à vous remercier. Merci de me donner cette tribune pour m'exprimer. J'espère que nos échanges aujourd'hui auront contribué à apprendre quelque chose à nos téléspectateurs.
Mm-hmm. Ça, c'est clair. En tout cas, merci aussi à vous.
Avec grand
L'équipe
plaisir.
Vous remercie parce que ce n'était pas évident. On a dû trimer un peu pour vous avoir parce que vous avez quand même un planning un peu chargé.
Oui.
Donc, merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de Mag Emploi. On espère qu'on vous aura une prochaine fois pour parler de tout ce qui est entrepreneuriat aussi, comment aussi aider les jeunes entrepreneurs, les nouvelles personnes qui veulent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. On espère qu'on aura l'occasion d'aborder un nouveau sujet sur l'entrepreneuriat.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Aïssata, merci aussi à toi d'avoir animé cette chronique Instant Malibra. On va se retrouver la semaine prochaine.
Oui, avec un autre thème.
D'accord. Merci aussi à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque mercredi à partir de 20h. Merci à l'équipe qui nous permet de pouvoir faire l'émission Mag Emploi. Nous vous rappelons que Mag Emploi, c'est l'émission qui est préparée, présentée par l'équipe de Malibra. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.
Emploi.